Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme le titre de ma présentation l'indique, ma contribution se focalise sur une caractéristique remarquable du Coran, une caractéristique qui a été maintes fois relevée, mais dont la complexité et les ramifications n'ont peut-être pas été suffisamment explorées. Et j'ai en tête la dialectique multiforme de l'oralité et de l'écriture dans le phénomène coranique. Alors oui, ce sujet n'est pas directement le sujet de ma thèse, qui porte sur la possibilité d'une lecture diachronique du texte coranique, donc plus prosaïquement ce qu'on appelle le problème du reclassement chronologique des sourates. Cette question de la séquence originelle des sourates est d'abord apparue dans le cadre de la tradition musulmane, comme on le sait, et elle a été reprise et retravaillée par les orientalistes au tout début de l'étude historico-critique du Coran. Mais depuis quelques décennies, la question de la séquence originelle des révélations fait l'objet d'un vif débat. On l'a vu ce matin avec M. Di, qui nous a dit que le paradigme noldequien, c'est donc le paradigme de la chronologie, n'a pas lieu d'être. Donc, dans le cadre de ma thèse, en réfléchissant sur la possibilité d'une lecture diachronique ou chronologique du Coran, il m'est apparu que la question du caractère oral et écrit du texte fondateur de l'islam est centrale. Et c'est donc de cette question dont j'aimerais parler aujourd'hui. Le Coran, comme le notait William Graham, déjà il y a une trentaine d'années, c'est un islamologue américain de Harvard, est à la fois fondamentalement oral et fermement écrit. Comment penser cette double nature? C'est assez inhabituel. Qu'implique cette singulière articulation de l'oralité et de l'écriture pour le lecteur, quel qu'il soit? Que représente cette double nature au niveau théologique d'une part et historique de l'autre? Donc, dans le cadre de cette session qui vise à suggérer des possibilités de coopération entre des approches confessantes et des approches universitaires, je propose d'explorer quelques aspects de ce jeu complexe de l'oralité et de l'écriture et d'essayer de tracer son impact sur la réception du texte fondateur de l'islam, aussi bien dans les cercles religieux que dans la recherche critique occidentale. À cet égard, je tâcherai d'étudier la réception universitaire et la réception musulmane côte à côte, comme deux moments d'un continuum, et non pas en les opposant l'une à l'autre. Donc c'est une approche de la réception. Et mon hypothèse est que toutes deux sont en quelque sorte interpellées, voire mises en déroute, par cette nature hybride du phénomène coranique. Ma présentation se compose de deux parties. La première partie donc considère un problème méthodologique que cette nature ambiguë génère pour le chercheur universitaire. Et la deuxième partie présente une tension théologique qui entoure le texte sacré du point de vue de la tradition de l'islam et que je propose également de rattacher à cette problématique. Alors, le Coran est, selon toute vraisemblance, la plus ancienne œuvre mise par écrit en langue et en alphabet arabe. Ça, c'est un... On peut être d'accord aussi bien du point de vue de l'approche confessante que de l'approche critique universitaire. L'historien qui tente de comprendre les origines du corpus coranique fait face à une situation singulière. Il doit expliquer l'apparition d'un texte abouti en un laps de temps relativement court dans une société qui jusqu'à là se situait à la marge des grandes civilisations lettrées et était de plus farouchement attachée à des modes de transmission oraux. C'est du moins l'image qu'on en a. Il y a quelque chose de profondément étonnant dans ce scénario improbable d'un texte qui surgit soudainement et sous une forme quasiment définitive d'un terreau apparemment peu propice à l'écriture. L'Arabie au 7e siècle, où on le sait, la poésie était transmise de manière orale, d'après ce que nous en dit la tradition. C'est un scénario qui, pour les uns, renforce l'aspect miraculeux du Coran, mais qui incite les autres à nuancer, voire parfois à remettre radicalement en question le récit traditionnel des révélations faites à Mohammed. Et c'est là où les approches divergent. L'objectif que se donne alors l'historien est en quelque sorte de réduire le fossé qui sépare le Coran de la culture lettrée et biblique de l'Antiquité tardive, soit en affirmant que cette culture s'était introduite au cœur du Hijaz, soit, plus radicalement, l'inverse, en déplaçant les origines du Coran de l'Arabie occidentale vers le Proche-Orient, donc en situant le Coran dans un autre contexte. La question ne peut être facilement résolue, en partie du fait de l'insuffisance des sources archéologiques et documentaires, on le sait bien, mais aussi du fait que le Coran lui-même n'offre pas d'indication claire sur son milieu de vie originel. S'agit-il de communication orale qui, fossilisée par l'écrit, conserve encore la trace du contexte humain dans lequel elles sont initialement inscrites ? S'agit-il d'une œuvre de scribe ? Ou à mi-chemin entre ces positions peut-être trop entières, faudrait-il concevoir le Coran comme le résultat d'un enchevêtrement complexe d'une parole transformée par l'écrit et d'une textualité capable de reprendre à son compte les marqueurs d'oralité. Et là, dans ce cas-là, ce serait très difficile de faire la part des choses. La critique textuelle du Coran n'a jusqu'à ce jour pas abouti à un consensus. Loin s'en faut. Deux études récentes, comme exemple parmi d'autres, toutes deux textuellement très minutieuses, concluaient dans un cas à une écriture savante. Je pense à Michel Cuppers, qui a mentionné ça dans un article récent. Et dans l'autre, on a une autre étude qui conclut à une composition orale, un chercheur américain du nom de Bannister. Les origines du texte coranique restent donc en partie obscures. La tâche de dénouer les trames de l'oralité et de la textualité est d'autant plus ardue que le Coran revendique pour lui tout à la fois l'autorité atemporelle et transcendante de l'écrit et l'intimité et l'immédiateté de la communication orale. Le Coran est à la fois parole, qawl, récitation, Qur'an, et écriture, kitab. Il promulgue l'imaginaire prescriptif du livre tout en s'offrant avant tout comme un phénomène auditif, oral. Il interpelle directement les protagonistes du théâtre de sa révélation, s'attache à leur temporalité spécifique, tout en gardant l'aura atemporelle que lui confère son origine divine et, du point de vue de la tradition, sa conservation dans le livre céleste, dans la tablette bien gardée. Je reviendrai sur cette double conception de la révélation islamique, à la fois parole circonstancielle et écriture éternelle, vers la fin de ma présentation, dans la deuxième partie. Pour l'instant, j'aimerais me tourner vers l'impact que cette nature linguistique ambiguë produit dans la recherche critique. Le champ des études coraniques, on le sait, oscille depuis plusieurs décennies entre deux pôles méthodologiques. D'une part, une approche hypercritique, et une approche qui accepte, et d'autre part, une approche qui accepte les grandes lignes du récit traditionnel musulman, notamment son cadre spatio-temporel, en gros. Je schématise. La différence entre ces deux approches dépend avant tout, évidemment, de leur évaluation de la fiabilité des sources historiographiques musulmanes. Mais j'ajouterai cependant qu'il est utile de considérer ces partis pris méthodologiques comme aussi deux approches linguistiques divergentes du phénomène coranique. D'un point de vue linguistique et herméneutique, la parole et l'écrit appellent évidemment des méthodes d'analyse distinctes. Un énoncé verbal se fonde physiquement sur la bouche et l'oreille comme médium et implique donc un face-à-face entre l'émetteur et le récepteur qui partagent nécessairement le même contexte. Ce contexte qu'il faudra en partie reconstruire limite de fait la profusion des sens des énoncés. Si l'on considère le Coran comme un ensemble de proclamations orales, on privilégiera une approche qui relève plutôt de la pragmatique, c'est-à-dire l'analyse du sens d'une unité linguistique en lien avec le contexte dans lequel elle est produite, et sans se soucier de l'ensemble des significations que cette unité peut générer selon sa sémantique ou sa syntaxe. Supposer un milieu oral restreint les paramètres de temps et de lieu, ainsi que l'horizon référentiel du Coran. Je donnerai un exemple plus tard. Et plus spécifiquement, les pronoms démonstratifs et personnels que le Coran utilise et qui restent allusifs seront de manière générale compris comme se référant à des personnes et à des événements spécifiques à cette réalité partagée. Si toutefois on choisit de mettre l'accent sur l'origine écrite du Coran, Celui-ci cesse de parler directement aux hommes et aux femmes de son temps pour, à la place, entrer en dialogue avec d'autres textes de l'Antiquité tardive. Le contexte spatio-temporel s'évapore et alors l'horizon référentiel se dilate. Le caractère allusif du Coran, et en particulier les pronoms, deviennent des énigmes qui sont résolues en identifiant le contexte textuel adéquat, c'est-à-dire en allant chercher d'autres textes antérieurs qui peuvent servir de clés d'interprétation. Analyser le Coran selon le postulat de l'écriture repousse les limites du temps et de l'espace en dehors de l'Arabie du 7e siècle et ouvre de nouvelles perspectives de recherche sans toutefois que celle-ci puisse être facilement vérifiée, car elle relève de la spéculation, de l'interprétation textuelle. On a eu un exemple magistral ce matin avec le verset de la sourate Maryam. La présentation que je fais ici de ces deux lectures du texte coranique, la première mettant en avant son oralité et la deuxième sa textualité, est forcément schématique. Toutefois, les différentes interprétations récemment proposé de la sourate Al-Qadr, en offre un exemple saisissant. Cette courte sourate, la 97e, contient 5 versets et elle a fait l'objet de plusieurs interprétations très divergentes par des universitaires. Et le débat, les divergences se sont focalisées sur le référent du pronom personnel « hu » dans le premier verset qui dit, je cite, « Inna anzalnahu fi laylatil qadr »« Nous l'avons fait descendre » lors de la nuit du destin, d'Al-Qadr. La question étant, la question qui a séparé, qui a travaillé ces universitaires, qu'a-t-on fait descendre lors de la nuit d'Al-Qadr ? De quoi s'agit-il ? Une approche pragmatique supposera que le pronom se réfère à une réalité immédiate, concrète, que le Coran désigne quelque chose qui est évident pour le récepteur. Et on notera que ce que Dieu fait descendre du point de vue de l'économie coranique, si on prend la logique coranique, c'est la révélation. Ça peut être le livre, le Coran, la guidance. Une telle approche contraste avec une lecture textuelle qui tâchera de mettre en relation cette sourate avec d'autres textes de l'Antiquité tardive pour élucider ce qui aurait été révélé ou descendu, en fonction de la compréhension qu'on a du verbe, lors de cette nuit spéciale. Alors, il a été suggéré que cette sourate faisait référence à la nuit de Noël. On a relevé l'imagerie qui rappelle la nuit de certains aspects de la compréhension chrétienne de la nuit de Noël, notamment la paix qui vient dans le dernier verset, Salam. Et donc, on a suggéré que le pronom « hu » se référait à Jésus, ou faisait écho, du moins, à la nuit de Noël et à la descente de Jésus sur terre. Donc on a là deux interprétations différentes qui ont la particularité d'avoir des présupposés divergents et donc des méthodes d'analyse divergentes. Et on pourrait imaginer bien sûr une approche qui se nourrit des deux. Je ne veux pas les opposer sans suggérer qu'une troisième approche, et encore plus, quatrième, cinquième, soit possible, mais c'était simplement pour mettre schématiquement en avant la divergence, les différences entre ces deux approches qui se font toutes deux sur des caractéristiques du texte, et donc qui sont toutes les deux intéressantes et valables jusqu'à, a priori. Et cet exemple concret illustre comment le Coran, en tant qu'objet linguistique hybride, c'est ce que je suggère, en tout cas, place la recherche critique face à ses présupposés et à ses limites méthodologiques. On a du mal à cerner, à trouver une approche qui permette de prendre toute la richesse du fait coranique ou du phénomène coranique. J'en viens maintenant à la deuxième partie de ma présentation pour prendre en compte un aspect de la réception musulmane de cette hybridité linguistique. Pour la tradition musulmane, le passage de l'oralité à l'écriture ne pose pas de difficultés majeures d'un point de vue historique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un passage linéaire. En premier lieu, il y a l'oralité, donc les révélations prophétiques étaient orales du vivant du prophète, et puis elles ont été collectées et mises par écrit, et surtout collectées dans un mousraf après sa mort. D'un point de vue théologique, pourtant, l'oralité première du Coran et sa textualité seconde renvoie à la double nature du texte coranique, qui est à la fois une révélation inscrite dans une temporalité bien précise, celle des aléas du prophète et de sa communauté. Je parle maintenant du point de vue de la tradition, c'est une analyse de la réception du phénomène coranique. Donc, le Coran est à la fois une révélation circonstancielle, inscrite dans sa temporalité bien précise, mais elle doit aussi, du point de vue de l'islam postérieur en tout cas, se présenter comme une écriture divine, éternelle, qui s'adresse à tous les peuples et qui est valable pour toutes les époques. Donc la dialectique de l'oralité et de la textualité coranique reflète donc une tension qui caractérise sans doute toute religion fondée historiquement et mue par un désir d'universalité. Comment concilier la dimension circonstancielle de l'histoire avec la portée éternelle du message religieux? Évidemment, le christianisme, la même question se pose d'une manière ou d'une autre dans le christianisme. Je ne sais pas si madame vraiment... Ok, très bien, tant mieux. Je continue. La conversion de l'oralité coranique en textualité canonique représente une rupture avec l'islam premier, avec la geste prophétique. On sort du temps prophétique pour passer à l'après-prophétique, à l'époque d'après. Mais c'est une rupture nécessaire pour que le message coranique puisse signifier au-delà de son milieu originel. La tradition est d'ailleurs bien consciente du caractère novateur et déterminant de la codification des révélations. Elle met ainsi en scène le désarroi des compagnons chargés de cette tâche qui auraient protesté « Ferions-nous ce que le prophète lui-même n'a pas fait ?» Cette rupture, ce passage sans retour de l'oralité vers la textualité, est symbolisé par la perte de la séquence originelle des révélations. À partir de la codification du Coran, le tartib al-nuzul, c'est-à-dire la chronologie originelle des proclamations coraniques, est remplacé et abrogé par le tartib al-mushaf, l'ordre des sourates dans le canon qui est attribué à Othman, le troisième calife. Les effets de cette mutation sont paradoxaux. D'une part, elle garantit l'autorité du canon, elle fixe le texte dans un ordre que tout le monde doit respecter, mais d'autre part, elle entérine la séparation avec les temps fondateurs. On perd cette temporalité première et on ne peut plus y retourner. À partir de ce moment, la connaissance de la chronologie des sourates est repoussée hors du savoir humain. Certes, il y a quelques listes chronologiques qui circulent parmi les exégètes. Elles ne circulent pas beaucoup, surtout dans les premiers siècles. Et Suyuti les reprend et met aussi quelques hypothèses. Mais au final, la question de la chronologie demeure incertaine. Ces listes n'ont qu'une valeur relative. Et je suggère qu'il ne saurait en être autrement. Car si la chronologie des sourates était assurée ou déversée, elle risquerait de porter ombrage à l'ordre canonique, au tartib al-mushaf. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé lorsque Al-Azhar a pris en 1924 la décision inédite d'inclure ou de préciser l'ordre, la position chronologique de chaque sourate dans l'édition qu'elle a faite à cette époque-là, 1924. Une trentaine d'années plus tard, arriva ce qui devait arriver, un citoyen égyptien lance un appel dans les médias, c'est quelqu'un d'inconnu, un fonctionnaire dans une institution quelconque, et appelle Al-Azhar à publier le Coran selon cet ordre chronologique, qui lui semble bien plus logique que l'ordre du Mousraf, qui reste finalement assez mystérieux. Alors sa lettre était intitulée « Ordonner le Coran tel que Dieu l'a révélé », donc il faisait un argument théologique, et elle provoqua un tollé dans les cercles religieux égyptiens. Al-Azhar répondit à travers la plume de Mohamed Draz, qui était alors un de ses grands théologiens, et ici aussi, oui, qui a fait sa thèse ici en Paris. Et Mohamed Draz répondit catégoriquement que cette demande effleurait le blasphème. C'était hors de question de prendre cette demande en compte. Mais par prudence, et c'est ce qui est intéressant, Al-Azhar préféra retirer par la suite cet ordre chronologique des éditions du Coran. Et dans la grande majorité des Corans qui sont publiés sous autorité d'Al-Azhar, on ne trouve plus cet ordre chronologique. On trouve une annexe à la fin qui spécifie l'origine mécoise ou médinoise des sourates. Et les Corans publiés par sous autorité de Médine, c'est pareil. Il n'y a pas non plus de. On préfère éviter de canoniser un ordre chronologique. On peut dire donc que l'exégèse coranique, généralement à l'affût de tout élément susceptible d'éclairer les zones d'ombre qui entourent la révélation, est forcé à la prudence en ce qui concerne la question de la chronologie des sourates. Je vais conclure. Par ces deux cas d'étude, le premier...
Vous avez encore 10 minutes.
Oui, mais on est tous fatigués. Par ces deux cas d'étude, le premier relevant de la recherche critique et le second de la conception croyante du Coran, j'ai voulu montrer la complexité de l'articulation de l'oralité et de l'écriture dans le phénomène coranique. C'est juste évoqué parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faudrait beaucoup plus d'études que je n'ai moi-même pas entreprises. Il est vrai que ces deux réceptions sont fort différentes. Évidemment, leurs présupposés et leurs objectifs ont peu en commun, mais elles découlent toutes deux d'une volonté de faire sens d'un même texte. Et de ce point de vue, elles peuvent donc être étudiées comme deux moments de la réception de ce texte. C'est ce qui a été mentionné avant également, cette volonté d'étudier l'approche confessante et l'approche universitaire comme deux moments de la réception de ce texte. Dans les deux cas, on note que le va-et-vient entre la parole et l'écrit qui caractérise le Coran expose d'une certaine manière nos limites. Ce qui apparaît sous la forme d'un problème théologique chez les uns prend peut-être, c'est ma suggestion, la forme d'un problème méthodologique chez les autres. Et finalement, c'est une caractéristique qui est intrinsèque au Coran, cette dialectique particulière de l'oralité et de l'écriture qui est inscrite dans l'histoire parce qu'on est face à un texte qui n'a pas d'histoire, qui apparaît dans une région où l'écriture n'était pas présente. On se plaît alors à espérer qu'une réalisation de nos lacunes respectives dégage un terrain commun de réflexion et de recherche, ou tout au moins renforce un respect partagé. Je vous remercie.